Bonjour, donc Marc Jampy, professeur d'histoire-géographie en collège Éclair à Vau-en-Velin. Si j'ai bien suivi votre exposé, donc cette volonté d'aller sur un pilotage par les valeurs qu'on peut comprendre et abandonner peut-être un petit peu la prescription et les normes, justement, est-ce que c'est pas contradictoire avec quelque chose qui a été un peu périphérique mais qui m'a interpellé sur la question du palier et de l'évaluation, à savoir que, justement, étant prof d'histoire géo et d'éducation civique, dans ce milieu palier 6, on nous demande d'évaluer... on nous demande d'évaluer, on va dire, les compétences sociales, civiques de l'élève. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de gens demandent la suppression. C'est pas le fait... de proposer, effectivement, on est là pour proposer, pour montrer des valeurs. Ce qui pose problème, c'est l'évaluation et qui fait qu'on a un certain nombre, et dont moi je ne fais pas partie, qui demande cette suppression-là parce que cette évaluation gêne. Comment on évalue un élève, et d'autant plus que c'est d'autant plus problématique en éducation prioritaire. Je pense que dans d'autres endroits, effectivement, les élèves, pour revenir à ce que disait Mme Gilles, ont un contexte éducatif extérieur qui fait qu'ils ont les clés, qui fait qu'on peut cocher le livret de compétences sans trop se poser de questions. Alors que là, la question, elle se pose, mais si on l'évalue vraiment, on arrive à ces discriminations et à imposer des normes sur un comportement civique, social, qui sont problématiques. Voilà, donc peut-être un peu des précisions là-dessus.
Oui. Si on part du point de vue que l'école doit instruire, éduquer, partons de ce postulat-là. Il y a deux types de compétences à développer chez les élèves. Il y a des compétences cognitives et des compétences comportementales. Hein? Alors, elles ne sont pas tout à fait de même nature. Les compétences cognitives sont fondées sur des connaissances qui sont des connaissances, constituées par des communautés scientifiques ou par l'histoire. Compétences linguistiques, par exemple, compétences sportives, compétences artistiques. Mais dans le domaine scientifique, c'est des compétences qui, des connaissances qui sont attestées par une communauté qui, à un moment donné, se met d'accord sur l'état d'un savoir. Bon. En revanche, dans le domaine comportemental, les compétences et les connaissances toujours, sont instituées par une société et diffère d'une société à l'autre. Voilà. Mais si vous êtes conscient de cette différence, et malgré cette différence, rien n'indique que les compétences instituées ou les compétences constituées soient inévaluables. Je crois que la réticence vient du fait que les enseignants du second degré, de par leur histoire universitaire, ont beaucoup de mal à intégrer l'idée qu'ils ont une mission qui, ils pourraient avoir une mission qui est de conforter des normes sociales dans une société déterminée. D'autant plus qu'ils sont influencés par une idéologie portée par une majorité de leurs grands syndicats, qui est une idéologie de remise en cause des normes sociales. Hein? Que ce soit la tendance marxiste du CNES ou l'autre tendance qui gouverne avec elle, qui est la tendance anarcho-syndicaliste, ces deux tendances se retrouvent sur la contestation que les normes sociales de la société actuelle sont légitimes. D'où l'idée que, voilà, demander aux enseignants de faire apprendre ces normes et de les évaluer est quelque chose qui, fondamentalement, les rebute. Alors, on peut penser que, voilà, il n'y a pas de société sans normes et que les nôtres valent bien les normes qui existent de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, il faut assumer, en tant que citoyen, l'état normatif de la société, ce qui n'empêche pas de développer aussi par ailleurs l'esprit critique des élèves, beaucoup de discipline et beaucoup de dialogue, en particulier sur l'exercice du libre choix à partir d'un système de valeurs, ce qu'on demande aussi aux enseignants de faire, peuvent aller dans ce sens. Je crois que les enseignants actuels n'assument pas, dans le second degré, j'insiste, l'idée qu'il faut accepter vis-à-vis des élèves d'être le responsable du monde, comme dit Hannah Arendt, tel qu'il est. Responsable du monde, ça veut dire, je te transmets le monde tel qu'il existe, avec ses qualités et ses défauts. Mais rien de pire qu'un enfant à qui on ne donne pas ce code d'entrée dans la société telle qu'elle est. C'est à partir de ce savoir, de ces compétences, que l'enfant devenu adulte pourra critiquer, enrichir, dénoncer éventuellement la société telle qu'elle est. Encore qu'il faut-il lui transmettre la société telle qu'elle est. Hein. Et ça passe par les normes sociales, ça passe par les comportements. Et dans les établissements dont on dit aujourd'hui, avec la terminologie que vous connaissez, qu'ils ont un bon climat, eh bien on commence par apprendre la politesse. Voilà, se saluer, dire bonjour. Hein. Et dans ces établissements-là, en tout cas de mon temps, quand j'en visitais un certain nombre dans l'académie, le niveau de violence était nettement plus faible que dans d'autres établissements qui n'avaient pas institué l'idée qu'on ne jetait pas un papier par terre ou lorsqu'on le jetait, on le ramassait. Hein. Je connais ce chef d'établissement, cette femme qui, devant les élèves, lorsqu'elle voyait un Kleenex par terre, le ramassait, le mettait à la poubelle. Les élèves commençaient par être étonnés. Et puis ensuite, ils faisaient pareil. Et un jour, d'ailleurs, anecdote pour anecdote, j'emmenais dans cet établissement un stage que j'animais sur le projet d'établissement de directrice d'école d'infirmière. Un téléphone portable sonne. La directrice sort de la salle, va dans le couloir, elle rentre au bout de 10 secondes en disant « voilà ce qui m'arrive, il y a un élève qui est venu me voir pour me dire que dans cet établissement, les téléphones portables étaient interdits, très poliment, donc j'ai arrêté de téléphoner ». Voilà. Hein. Les normes de la vie sociale appropriées, intégrées par les élèves. On peut ne pas être d'accord, mais comment éduquer si on ne transmet pas cet héritage-là? Voilà. Si on n'assume pas l'héritage. Vous pouvez répondre, oui.
Justement, c'est là-dessus que je voudrais revenir. Et c'est très bien l'exemple que vous avez montré. C'est-à-dire que je pense qu'on a un devoir d'exemplarité, avec l'exemple que vous avez pris du chef d'établissement, et que c'est là-dessus où, d'autant plus en éducation prise de terre, on doit faire attention et gouverner par les valeurs. Mais entre essayer de transmettre quelque chose par l'exemplarité et l'évaluer, que ce soit une note ou par... une acquisition de compétences, le passage me semble plus délicat. Voilà.
La notation, toute évaluation n'est pas notation. Vous savez que dans le code de l'éducation, seules les classes d'examen sont soumises à l'obligation de noter à cause du contrôle continu. Mais par ailleurs, le code de l'éducation est muet sur cette question de la notation. On parle partout d'évaluation. Bon. Ceci dit, on sait bien, dans la tradition de l'école française, que toute discipline qui n'est pas évaluée est dévalorisée. Donc là encore, il faut assumer. C'est-à-dire que je sais bien que si je dis « ça, c'est pas comme le reste », ça perd toute valeur aux yeux des parents et des élèves. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense que la question du comportement des jeunes est une question éminemment importante. Vous savez que la réputation des collèges aujourd'hui ne se fait plus sur les résultats au DNB. Mais se fait sur la réputation en termes de sécurité, de violence, et de climat, majoritairement. Donc c'est toute la dynamique sociale qui est concernée par cela. Et je pense qu'il faudrait que les enseignants assument pleinement leur mission éducatrice. On ne peut pas continuer à se plaindre. Les familles ne font pas leur travail. On est dans une société qui est comme celle-là, avec les familles décomposées, recomposées, perdues, paumées pour certaines, telles qu'elles sont. Et donc, qui va le faire si l'école ne le fait pas? Et dans l'école, on a beau multiplier les auxiliaires éducatifs, dans un article, j'ai fait la liste de tous les dispositifs depuis le début des années 90 et les sommes que ça a coûté, les dizaines de milliers d'emplois que ça continue de coûter, hein, sans que le niveau de violence ait diminué, au contraire, dans les établissements scolaires. Tant que on externalise cette question des comportements et de l'éducation à des auxiliaires d'ailleurs mal formés ou pas formés du tout, on ne peut pas avoir de résultats et ça coûte très cher. Donc il est important de revoir la philosophie même de cette question éducative dans le cadre scolaire pour confier aux enseignants la mission d'éduquer, ce qui veut dire évidemment les former à ça. Car sur le terrain, dans les classes, ils éduquent, ils se préoccupent des comportements. Sinon, ils ne tiendraient pas. Mais ils le font sans avoir aucune formation ni aucune compétence en fonction de voilà, leur conception personnelle, leur histoire familiale, leur autorité plus ou moins naturelle. Et j'ai envie de dire, ils le font en se plaignant en plus. J'ai perdu 10 minutes à faire de la discipline. Mais non, peut-être que c'est peut-être 10 minutes de très bonne éducation pour les enfants. Hein, et que le temps n'est pas totalement perdu. Mais vaut mieux marcher en regardant la réalité en face que plutôt de marcher à reculons, hein, en refusant de la regarder et en se plaignant. Or, on est plutôt dans cette dynamique aujourd'hui.
Oui, Sylvie Martin-Ametto, chargée d'études au Centre Alain Savary. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit au début de votre exposé et que Madame Gilles avait déjà dit avant. Quand on parle des valeurs qui guident dans la prise de décision dans l'éducation nationale, vous parlez d'égalité des chances, d'équité, d'éducabilité. Et puis après vient le mot mérite. Et pour moi, ce mot mérite, c'est pas une valeur. Et d'ailleurs, c'est un mot... Je ne sais pas vraiment quel est le sens du mot mérite. Comment est-ce qu'il est défini? Et comment est-ce qu'il est défini spécifiquement peut-être dans l'éducation nationale?
Ben, Béatrice répondra peut-être. Moi, à ma manière, j'ai envie de dire que c'est l'idéologie méritocratique, c'est l'idéologie de l'école républicaine de la fin du 19e siècle. Hein, et donc on mesure le mérite scolaire par les résultats de l'école. Et on tente de promouvoir... les bons élèves en négligeant sans doute ceux qui sont moins bons. Hein. L'idée que c'est pas la naissance qui fait l'avenir de l'enfant, mais ses résultats à l'école. Voilà, moi j'ai été totalement issu d'une famille très populaire, j'ai été totalement là-dedans dans toute mon histoire scolaire. Hein. C'est mon instituteur qui est venu voir la famille, parce que moi, je voulais suivre les copains à la fin du CM2 pour dire « Votre fils, il est très bon, il doit aller au cours complémentaire en 6e. Voilà. » Puis ensuite, en 3e, il doit aller au lycée. Hein. Donc, voilà, l'idée que c'est pas la naissance qui doit faire l'avenir de l'enfant, mais son mérite scolaire. Alors, on sait, Bourdieu, tout ça, c'est arrivé par la suite. Hein. Mais profondément, l'idée de mérite, c'est celle-là. Et bon, les lycées d'excellence, les internats d'excellence, par exemple, aujourd'hui, sont fondés là-dessus. Hein. Les meilleurs des établissements populaires, on va leur donner les meilleures conditions de travail pour les promouvoir. La libéralisation de la carte scolaire fonctionne un peu là-dessus, avec l'idée que les boursiers vont avoir des points supplémentaires dans la FELNET pour... aller dans les bons lycées, sauf qu'ils ne les demandent pas. Et là, on est renvoyé au déterminisme socioculturel. Donc cette idéologie a été critiquée, évidemment, par la sociologie, mais elle reste encore très active au sein de l'éducation nationale.
Juste pour dire que mon propos était plutôt... interrogatif hein, sur la question de mérite, justement. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a plus intérêt, bon, d'une certaine façon, le mérite vu, comme vous venez de le dire, c'est le talent et l'effort dans des codes et des conventions pour lesquels tout le monde n'a pas le même handicap de départ, disons. Donc Mon propos était plutôt de dire qu'on avait fonctionné effectivement sur une rhétorique et une valeur de mérite, mais aussi une rhétorique d'ailleurs. Hein. Et que, en ce qui concernait les zones d'éducation prioritaire et l'éducation prioritaire en règle générale, on voit bien que c'est pas ça qui va permettre pour nous, sans doute, de mobiliser, de structurer nos travaux. C'est tout ce que je pensais que vous alliez le développer, puis en fait, justement, enfin, parce que c'est vraiment un vaste sujet, et on continue finalement à fonctionner comme ça, alors que le principe d'éducabilité, au contraire, me paraît être un principe et une valeur essentielle en éducation prioritaire, c'est-à-dire tout le monde, absolument tout le monde, peut être éduqué et on peut transmettre à tout le monde avec une facilité plus grande, on le voit chez les adultes, avec les tout-petits. C'est-à-dire que plus on monte en âge et plus cette intégration du principe d'éducabilité est compliquée et difficile. Mais il faut absolument, enfin c'est une valeur qui est totalement nécessaire à tout éducateur. À mon avis, profondément nécessaire. Après, le mérite, on dit tellement de choses.